Ce qui distingue les figures marquantes de notre histoire, c'est leur capacité à prendre des décisions qui transforment le cours des choses, à faire des choix décisifs qui impactent le collectif. Dans le jour où nous explorons ces instants clés, ces moments où une vision individuelle devient une action concrète, porteuse de changement. Aujourd'hui, nous avons l'immense privilège d'accueillir Jean-François Delfrécy, médecin, immunologue et ancien président du conseil scientifique sur la Covid-19. Face à une crise sanitaire mondiale sans précédent, il a dû, avec son équipe, naviguer dans l'incertitude et proposer des orientations essentielles à la France. Aujourd'hui, vous êtes le président du CCNE, Comité Consultatif National d'Éthique. Dans cette émission, nous allons explorer le jour où Jean-François Delfrécy a pris une décision clé, mais aussi comprendre ce qui motive un tel engagement entre science, éthique et humanité. Jean-François Delfrécy, merci d'être avec nous.
Bonjour.
Bonjour. Pour commencer, dans le jour où vous avez dû prendre une décision déterminante dans votre carrière, quel était ce jour ?
Alors,
vous pouvez en avoir plusieurs.
Oui, curieusement, le jour qui m'a fondé un peu, c'est j'étais très jeune, j'avais 17 ans, c'était 8 jours après le décès de mon père, et j'étais à l'époque en préparation en maths sup à Lille-Grand, et on était mi-octobre, et j'ai décidé, en rentrant de l'enterrement, qui avait lieu dans le Cantal, et on verra que le Cantal est un élément important pour moi, j'ai décidé d'arrêter et de faire médecine.
D'accord. Donc, et pourquoi vous étiez où ? Vous étiez dans la rue ? À quel endroit vous étiez quand vous avez pris cette décision ?
Voilà, mon père était médecin. J'avais jamais trop discuté de ce sujet. J'étais parti pour faire ce qu'on appelait les prépas à l'époque. Et j'ai choisi à ce moment-là de faire médecine. Et c'est probablement la grande décision qui m'a poussé à faire ce magnifique métier.
D'accord. Et ensuite, toutes les décisions de votre vie, parce qu'il y en a eu plusieurs quand même.
Après, est-ce que vous pouvez nous en parler ? Non, je dirais que ça, c'est très personnel.
Je trouve ça très, très intéressant.
Mais après, oui, bien sûr, il y a eu d'autres décisions. Par exemple, j'étais aux États-Unis, juste avant la période SIDA. J'étais à l'époque immunologiste très fondamental. Je faisais de la recherche sur ce qu'était le début de l'immunologie. J'étais d'ailleurs dans le laboratoire avec Tony Fauci. Alors, on en reparlera tout à l'heure, mais quand les gens disent ils connaissaient Tony Fauci. Oui, je connais Tony Fauci depuis maintenant 45 ans. Et en rentrant des US, c'est là où les premiers cas de sida sont apparus. Et je me souviens très bien de lire...
On était en quelle année ?
On était en 82-83. Mm-hmm. Et je rentrais à Béclair, Antoine Béclair, qui est un hôpital dans le sud de Paris. Et j'ai pris la décision d'arrêter l'immunologie fondamentale, pour me consacrer fondamentalement à la prise en charge des patients VIH et des patients SIDA. Et je dis souvent que je suis un bébé SIDA, mais avec beaucoup de cheveux blancs.
D'accord. Alors, quelles responsabilités ont traversé votre esprit à cet instant précis, quand vous avez, pour vous parler du SIDA, vous prenez la décision de vous occuper des patients. Alors, qu'est-ce qui vous passe par l'esprit ? Pourquoi vous prenez cette décision ?
C'était un mélange à la fois du fait qu'on ne connaissait rien, c'était vraiment une rupture en médecine. C'est une médecine assez triomphante des années 80, qui croyait que le monde était devant elle, et puis brutalement arrive une épidémie sur laquelle on ne connaissait rien. Donc après, ça a été le début d'une série d'épidémies que j'ai pris en charge,
et
sur
lesquelles
on ne connaissait rien.
Il y avait Ebola,
il y a eu Covid-19, donc c'était le début d'une grande aventure.
Ouais.
Et ça, c'était le premier point. Le second point, c'était... Le rejet, initialement, par peur, d'une population. J'ai des souvenirs, Antoine Béclair, j'avais mon bureau de chef de clinique assistant sur le palier, et je retrouvais pendant une période, tous les lundis, marqué à l'énorme feutre, sale PD.
Oh là là.
Ça montre le rejet qu'il y a eu pendant quelques temps, très peu de temps, puisqu'ensuite le système hospitalier est un système qui est très ouvert, et qui a pris en charge ces jeunes patients qui étaient dans des conditions dramatiques. Mais ça montre bien la peur qu'il y avait. Et j'amenais mes jeunes étudiants, mes externes, pour regarder la porte le lundi et leur dire « Regardez le job que vous avez choisi. La médecine, c'est un métier très technique, mais c'est un métier aussi, il y a toujours une vision politique. » Et c'est là où j'ai commencé à réfléchir quelle était la position du médecin par rapport aux patients et qui a forgé ma vie, de dire que la maladie, elle appartient au patient et il doit la porter. Et là, on est là, nous, médecins, pour l'aider.
On va parler d'Ebola maintenant. Où vous étiez quand vous avez pris la décision de vous occuper de cette épidémie d'Ebola?
Alors après, on me voit maintenant évidemment comme d'abord quelqu'un d'âgé, ce qui est vrai. Ensuite, comme quelqu'un qui a eu beaucoup de responsabilités. Bon. Mais en fait, j'ai été un médecin qui a eu beaucoup les mains dans le cambouis. Je me suis beaucoup occupé des patients VIH. J'avais géré un gros service à Bicêtre. C'est là où j'ai connu aussi tous les états d'âme autour de la fin de vie. C'est ces jeunes patients qui n'en pouvaient plus. Et puis après, on vous confie au fur et à mesure que les choses arrivent. On se trouve et on commence à, sur des questions tout à fait essentielles, à discuter avec le politique. Mm-hmm. Et on a commencé à discuter avec le politique, avec Jacques Chirac, sur l'accès aux antirétroviraux dans les pays du Sud dans les années 2000. Puis après, voilà, j'étais considéré comme quelqu'un qui voilà, gérait les crises, était spécialiste des maladies infectieuses, connaissait bien le monde international, connaissait bien l'Afrique. Donc chaque fois qu'il y avait un gros problème, voilà, on se disait quelle est la vie de Defressi. Et alors c'est ce qui s'est passé aussi à la fois pour H1N1 au début, ensuite pour Ebola. Ouais. Et Ebola, je me souviens très bien de la discussion autour d'Ebola. Ebola, c'est très particulier parce que c'est la première fois qu'un germe, le virus Ebola, a été isolé, non pas par les Américains, qui en général avaient une structure autour du CDC qui permettait d'isoler très rapidement les virus ou les bactéries qui étaient en cause dans les grandes pandémies. Mais là, ça a été Médecins du Monde qui a apporté un fragment de sang de patients Ebola et qui l'a amené au P4 de Lyon, qui est un laboratoire extraordinaire qui permet de faire des diagnostics dans des conditions de sécurité maximum.
D'accord.
Et donc, on a eu les résultats du P4 de Lyon, on a vu ce qu'était Ebola. Et à partir de là, j'ai lancé, je dirigeais une agence de recherche, j'ai lancé les recherches sur Ebola. Et c'était donc en mars 2014. Et à partir de l'été, c'est là où Ebola a commencé, où il y avait quelques cas d'Ebola qui sont arrivés en Europe, alors que c'était essentiellement
en Afrique.
En Afrique et en particulier dans l'Afrique de l'Ouest. Il y a eu une grande angoisse, de bouffée d'angoisse au niveau européen, des gouvernements européens. Et en France, donc, c'est le président de la République, François Hollande, qui a souhaité qu'il y ait un délégué interministériel sur Ebola, et il m'a confié cette tâche. En fait, en France, ça s'est très vite résolu, et ça, je le savais, je l'ai dit d'ailleurs lors d'une réunion de tous les préfets, et par contre, j'ai passé pratiquement 7 mois de ma vie en Guinée pour résoudre un certain nombre de points sur Ebola.
Et comment ça s'est passé? Comment vous avez évalué l'impact de cette décision sur le collectif, par exemple, en Afrique? Comment ça s'est passé? Comment vous l'avez...
Ce qui s'est passé, c'est que Ebola, c'est une maladie qui était au début meurtrière à 90%, c'est-à-dire on était touché par Ebola.
Bien sûr, 10 quoi.
Et bah, c'était donc des conditions drastiques d'isolement des patients et d'isolement des corps. Donc il y a les ONG qui étaient en première ligne, Médecins du Monde, Médecins de MSF, etc., avaient mis des conditions extrêmement drastiques pour la prise en charge de ces patients. La Guinée, c'est 90% de patients. De personnes qui sont d'origine musulmane. Et donc, il y avait un circuit très particulier où une personne était suspecte d'Ebola. Elle rentrait dans une partie du camp médical où on l'isolait de la famille. Ensuite, elle faisait Ebola ou elle ne faisait pas Ebola. Mais si elle faisait Ebola, elle avait 9 chances sur 10 de mourir dans les 8 jours.
Et comment on attrape Ebola?
Alors, on attrapait Ebola, on va y revenir, essentiellement par les contacts cutanés et en touchant les gens. Et donc... La population guinéenne ne comprenait absolument pas et voyait plutôt l'arrivée des ONG comme quelque chose qui ne leur rendait pas service et qui isolait leurs patients et de leur famille. Et il y avait même des cailloux qui étaient lancés sur les camps et on s'est très vite aperçu qu'une des mécanismes majeurs de contamination, c'était les enterrements. Et les enterrements dans le milieu musulman durent 2-3 jours, on touche les corps. Et c'est là où le moment où les gens se contaminaient à l'occasion des enterrements.
D'accord.
Donc il a fallu expliquer, et je suis allé voir le président de la République de Guinée de l'époque, qui était Condé, pour lui demander qu'il fallait qu'il prenne la parole pour expliquer pourquoi il y avait ces isolements et pourquoi on voulait mettre des enterrements sûrs. Il a refusé. Il a refusé parce qu'il a dit « c'est pas mon rôle de politique, ça dépend, c'est un caractère religieux ». Et je ne peux pas aller contre ça. Donc, on est allé voir les imams, et c'est là où je me suis aperçu que Il n'y a pas de hiérarchie dans les imams comme dans la religion catholique, par exemple.
C'est les imams.
Et on peut être une petite structure et avoir une très grande voix. Ouais. Et donc, c'est par leur intermédiaire que finalement, on a pu porter la voix au niveau des citoyens. Ebola illustre bien comment les grandes pandémies sont d'abord, évidemment, avec un germe, c'est médical, mais ça devient très, très vite sociétal.
Ouais.
Et il faut que la réponse à la société puisse être apportée très rapidement et en parallèle de la réponse.
Mais est-ce
politique.
Que la réponse doit être politique, justement ?
Elle est forcément politique.
Elle est forcément politique.
Elle est forcément politique, parce que si elle est sociétale, le politique doit être amené à prendre un certain nombre de décisions.
Tout à fait.
Et c'est là où on rentre dans la discussion de la relation entre science et politique, comment l'expert peut éclairer le politique, et c'est au politique de prendre la décision.
Si on peut, est-ce qu'on peut faire un parallèle entre l'Ebola et le Covid-19 ? Est-ce qu'il y a eu des similitudes dans la gestion, dans la manière de gérer ces crises ? Est-ce que ça vous a aidé ?
Ebola était essentiellement en Afrique.
Tout à fait. Mais est-ce que ça vous a aidé pour comprendre comment fonctionnait
Oui, bien sûr. Mais les pays du Nord ont vu ça, Ebola, comme quelque chose qui était ailleurs, hein, et ou sur lequel ils n'étaient pas touchés. Le Covid-19, il y a une grande particularité. C'est la première grande pandémie récente qui touche à la fois les pays les plus riches
et les pays les plus pauvres.
Les pays les plus âgés et ceux qui ont le plus de fric. Hein. Donc on était dans quelque chose de très particulier.
Ça a touché tout le monde.
Il y a des similitudes, ça touche tout le monde. Il y a eu des hésitations au départ sur les mécanismes de transmission. Justement, est-ce que l'aspect cutané touchait ou au contraire jouait un rôle, ou au contraire est-ce que c'était par voie respiratoire, d'où toute la discussion autour des masques. Et puis très vite, on est rentré en effet dans un climat de grande incertitude scientifique, et donc de cette relation complexe entre la science qui ne sait pas et qui a conseillé un politique qui lui-même est en attente. Et on l'a vraiment vécu, moi je l'ai vraiment vécu en particulier tout début mars 2020. J'étais allé à une réunion autour de...
Rappelons que vous avez présidé le conseil scientifique pendant la crise Covid-19.
Oui, non, voilà. Et où le conseil scientifique a été créé...
En mars 2020
Tout début mars, ça a été créé le 5 mars.
D'accord.
Après la suite d'une réunion qui avait lieu à l'Élysée où j'avais réuni des scientifiques.
Et là, comment ça se passe ? Comment ça se passe ? Donc, c'est-à-dire que la crise démarre, le président de la République vous appelle directement. Comment ça se passe ?
Non, c'est autre chose. La crise était déjà depuis début janvier.
D'accord.
Mais il y avait jusqu'à la fin février l'idée générale que la France éviterait de rentrer dans une crise, qu'on avait les moyens d'éviter d'avoir ce type de contamination. Puis, on s'est très vite aperçu qu'on n'y arriverait pas. Hein. Et moi, j'ai vu ça vraiment lors d'une réunion, la seule réunion physique qui a eu lieu à Genève, où j'y étais pour le comité d'éthique. Mais j'ai retrouvé tous mes copains qui s'occupaient du virus. J'en ai entendu les Chinois qui nous racontaient ce qui se passait en Chine et qui nous racontaient très peu de choses. Et donc,
mais j'ai l'impression que les citoyens savaient, par exemple, les citoyens parlaient, on savait qu'il y avait des cas qui arrivaient de Chine, qu'il y avait une maladie qui allait arriver.
Mais on ne savait pas à quel point ça allait être
degré.
Une pandémie.
Enfin, tout à fait.
Qui aurait imaginé, moi le premier, hein, qu'on allait rentrer dans un confinement généralisé, et pas seulement en France, hein, de l'ensemble des grandes démocraties. Personne, c'est une mesure très moyenâgeuse, personne n'aurait imaginé un truc pareil. Et donc, j'ai envoyé, moi, en rentrant de ces réunions, je suis allé à Londres voir les jeunes médecins qui font de la prédiction, et ensuite les gens de Pasteur, et puis voilà, j'ai donné un signal à l'Élysée en disant, je pense qu'on se trompe complètement, et qu'on est au début d'une grande pandémie. Et alors, à partir de là, en quelques jours, on a eu une réunion des scientifiques à l'Élysée, la création du conseil scientifique, et puis ce jeudi 12 mars 2020.
Donc c'est juste avant le 17 mars. C'est confinement, confinement généralisé.
Le jeudi matin avec quelques membres du conseil scientifique face au président de la République, au Premier ministre, aux différents ministres.
Vous étiez combien là ?
Et on était, il y avait donc les politiques qui étaient une quinzaine, et nous on était 5-6, parce que tout le conseil scientifique n'était pas venu. On avait été créé 3 jours avant, et où on leur dit, eh bien, on nous pose la question, mais alors qu'est-ce qu'on fait ? Et on répond, évidemment, on l'avait préparé, il faut confiner le plus vite possible et le plus dur possible. Et là, j'ai vraiment senti...
La tête du président de la République et du Premier ministre, quelles ont été leurs têtes ?
Alors, je pense que le président de la République avait compris qu'on allait là.
D'accord.
Mais qu'il avait besoin de l'entendre, entre guillemets, je dirais, dit par des scientifiques et dit par des gens extérieurs. Parce que c'était une telle décision qu'il devait prendre pour le pays qu'il fallait qu'il soit conforté, entre guillemets. Et on commençait dans cette relation complexe, hein, mais absolument nécessaire, entre la science, qui sait ou qui sait plus ou moins d'ailleurs, et puis le politique de plus haut niveau. Autour de lui, par contre, au niveau des ministres, des conseillers...
c'est ça le problème.
J'ai bien senti que là, ils nous regardaient avec des yeux en train de se dire... Mais ils sont, qu'est-ce qu'ils sont en train de nous dire? Alors, il faut attention, hein. Ça aurait été le cas si ça avait été une décision uniquement.
Est-ce que vous avez reçu des pressions, des incertitudes? Est-ce qu'il y a eu des incertitudes quant à cette décision?
Non, il n'y avait pas d'incertitude. On était vraiment convaincus, les membres du Conseil.
Mais est-ce que vous avez eu des pressions, justement, de certains ministres
vous disant que vous êtes
complètement fou?
Aucune pression. Je le dis d'ailleurs sur l'ensemble de l'avis du Conseil scientifique. On a été d'accord le plus souvent avec les décisions politiques, mais pas toujours, hein, pour y revenir, pas toujours. Et c'est très bien d'ailleurs qu'on soit pas toujours d'accord, mais à aucun moment, durant les 2 ans et demi de crise, de vie du Conseil scientifique, je n'ai une quelconque pression politique pour dire telle chose ou telle autre chose, ou ne pas dire des choses. Ça, je veux le dire parce que en France, on reste quand même une très belle démocratie.
Hein. Tout à fait.
Et avec ce partage des pouvoirs qui est très particulier, entre d'un côté la science et de l'autre côté la décision.
Justement, on va en parler parce que la pandémie a révélé quand même des tensions. On ne peut pas le nier entre science, politique, opinion publique. Comment avez-vous trouvé un équilibre dans ce triangle qui est quand même incertain?
Alors, d'abord, il faut avoir de l'humilité. Hein,
non, mais vous n'étiez pas tout seul, évidemment.
On n'était pas seul. Et puis, de l'humilité dans ces grands enjeux, sur les décisions à prendre. Bon. La France s'en sort plutôt bien de cette pandémie. Hein. C'est pas à moi de le dire, mais bon, j'ai l'occasion de le faire. Si on regarde sur un marqueur qui est la perte de durée de vie d'un pays, la France perd 3 mois et demi de vie. Hein, on a eu en gros 190 000 décès liés au Covid sur les 2 ans et demi. Et on perd sur la durée de vie du pays moins 3,5 mois. On fait mieux que l'Allemagne, dont on nous a beaucoup dit, mais regardez comment les Allemands font, etc. On fait mieux que l'Angleterre, on fait mieux que l'Italie, on fait mieux que l'Espagne. Bon, on fait moins bien que le Danemark, ce qui est très intéressant, c'est de voir que les États-Unis, qui sont le pays de l'innovation, c'est eux qui ont mis en place les vaccins, c'est eux qui ont mis en place un certain nombre de traitements, eux perdent moins 2,5 ans. Donc on est en train de parler de moins 3,5 mois, et moins 2,5 ans aux US. Pourquoi? Parce qu'aux US, l'accès aux soins pour les populations les plus fragiles, en particulier les Blacks et en particulier les Hispaniques, c'est fait dans très mauvaises conditions. Oui. Et si on va plus loin, je vois ça avec maintenant 4 ans de décalage, regarde ce qui s'est passé dans les États républicains ou dans les États démocrates, c'est la situation la pire, c'était dans les États républicains.
C'est logique. Donc certaines décisions, comme les confinements, étaient quand même très controversées en France et dans le monde. Comment vous avez fait pour gérer les critiques personnelles comme professionnelles?
Alors, je ne suis pas sûr que le premier confinement...
Pas le premier.
...ait été tellement contesté.
Je pense que les gens... le discours de Macron, le discours de notre chef d'État, quand il dit « c'est la guerre », c'est la guerre, je pense que... Est-ce que ce discours a été fait justement pour faire peur aux Français?
Ben je pense que, moi, les Français n'étaient pas prêts du tout à entendre ça.
Non.
Ils avaient conscience qu'il se passait quelque chose, mais ils n'étaient pas du tout prêts. Ah, d'ailleurs, qui était prêt à confiner un pays? Personne. Hein.
Et est-ce que la communication politique s'est bien faite, justement, là-dessus?
Alors, je pense que le début, il y avait cette ambiance. On est passé par un conseil de défense. Et puis, il l'a fait en deux temps pour expliquer d'abord un premier confinement partiel, puis ensuite un confinement plus complet. Moi, je comprends ce qui s'est passé là. Non, les ennuis ont été dans la durée. C'est-à-dire que moi, le premier, je pensais qu'on était parti pour une période de 1 an, probablement.
Hein. Ah, le premier confinement?
Mais non, pas le premier confinement, mais je pensais qu'on aurait un premier confinement, puis qu'on aurait un retour.
D'accord.
Et puis, c'est ce qui s'est passé. Mais les ennuis ont vraiment commencé. Mais les Français avaient l'impression d'avoir joué le rôle, joué le jeu, d'avoir été confinés, d'avoir été très, très respectueux à ce moment-là des restrictions de liberté qui se sont passées, parce qu'il y a eu des vraies restrictions de liberté.
Tout à fait.
Et se sont trouvés ensuite au mois de septembre ou au mois d'octobre 2020, alors qu'il faisait très beau, d'ailleurs, c'était un peu un été indien. Et puis là, on leur annonce, nous, il va y avoir une deuxième vague. Et c'est là où a commencé le débat très difficile, avec des experts qui disaient, mais non, ils inquiètent beaucoup plus, il n'y aura jamais de deuxième vague. Et puis en fait, la deuxième vague arrive, et il y a un deuxième confinement qui se met en place à partir de la fin.
Qui était un peu plus léger, hein, quand même.
Alors,
hein.
Qui était plus léger, mais qui était beaucoup plus difficile à supporter.
Oui, tout à fait,
et puis, parce qu'on en connaît ça. Et puis ensuite, on sort de cette deuxième vague, on a les vaccins qui arrivent à partir de décembre 2020, et puis le gouvernement, lui, est persuadé qu'avec les vaccins, tout va se faire. Sinon qu'on ne vaccine pas un pays en quelques mois. Donc, c'était forcément avec du temps. Et puis arrive une troisième vague et arrivent surtout des variants, ouais. Des variants qui sont beaucoup plus... Donc, des mutants de ce virus qui sont beaucoup plus transmissibles et donc qui changent complètement la donne de nouveau. Et donc, on se retrouve, et c'est là la période la plus difficile qu'on a eu à vivre. Les gens ne s'en sont pas rendus compte. Mais ne serait-ce qu'en termes de décès aussi, hein, c'est le premier trimestre 2021 où on a d'une part une campagne vaccinale qui démarre et de l'autre côté, des virus variants qui arrivent. Et c'est là où on a eu la plus grande tension entre le Conseil scientifique et les décisions politiques.
Quelles ont été les plus grandes critiques que vous avez entendues au niveau professionnel là-dessus et au niveau personnel? Parce que j'imagine que vous avez dû en entendre quelques-unes.
Oui, mais à vrai dire, je m'en foutais.
De toute façon, est-ce que vous aviez le choix?
Je m'en foutais parce que il y a un moment donné, on vous confie une mission. Les règles avaient été assez claires, hein, vis-à-vis du président de la République. Il m'avait dit au départ, on protégera les plus fragiles et je m'appuierai autant que faire se peut sur les données de la science.
Très bien.
Et donc sur ces deux données, je trouvais que la collaboration était possible, elle était faisable et c'est d'ailleurs ce qui s'est passé. Après, on ne peut pas, dans ce type de démarche, on ne peut pas avoir un consensus. Bon, il faut savoir qu'il y a une minorité, on a une minorité très active contre nous, et ensuite avec les vaccins, les antivax, etc. Bon, mais j'avais décidé, peut-être à tort d'ailleurs, de ne pas aller sur les réseaux sociaux et de jouer la carte médiatique uniquement sur la présentation des avis du
D'accord,
Conseil.
D'accord, donc pas de YouTube, pas de podcast.
Aucun
média alternatif.
Et alors, j'ai cru, et après coup, je me suis dit, dans les erreurs qu'on a fait, on a eu tort de ne pas y aller pour présenter aussi, discuter à toute cette population. Puis je m'aperçois que dans les enquêtes récentes, on s'aperçoit que les réseaux sociaux sont très présents.
Bah, on le voit dans la campagne électorale américaine. Alors.
Mais c'est vrai. Mais que sur les enjeux de santé,
ouais.
Il y a deux grandes enquêtes qui viennent de sortir.
D'accord.
Et qui montrent que finalement, l'impact sur la vision des santé, la vision sur la santé sur les réseaux sociaux pour les Français est assez minime. Et qu'il s'appuie essentiellement sur les médias traditionnels.
Oui, mais ça veut dire qu'il faudrait peut-être commencer à s'y mettre, Jean-François. Donc, en tant que scientifique, quel regard portez-vous sur l'importance de la communication, justement, et de la pédagogie face à une crise de cette ampleur?
Alors, c'est un point majeur. C'est un point majeur.
Est-ce qu'il y a eu un problème de communication là-dedans?
Il y a d'une part, parce que, somme toute, on a eu deux éléments. On avait des mesures de santé publique qui étaient avec des mesures de restriction de liberté importantes, hein, allant au début avec le confinement, les couvre-feux, puis ensuite allant vers le pass sanitaire et le pass vaccinal. Donc c'est bien, on restreint les libertés.
Tout à fait.
Et puis de l'autre côté, on a l'innovation qui arrive avec l'arrivée de tout ce qui est arrivé avec les médicaments, les vaccins, etc. Et dans cette restriction de liberté, il y avait une balance qui était entre restriction de liberté individuelle, mais qui était au profit d'une vision plus collective. Hein, c'était pour protéger la nation de façon plus globale. Et c'est dans ces deux grands enjeux éthiques qu'on connaît bien, hein, c'est l'autonomie et la liberté individuelle, avant tout à l'anglo-saxonne, versus la solidarité. La solidarité, c'est quelque chose où on s'occupe des plus fragiles et au nom de tout le monde, au nom de la nation. Et je pense qu'on a oscillé en permanence entre ces deux points. Et que c'est difficile à faire passer en temps de crise. Bon, c'est très
Est-ce qu'il n'y a pas eu un problème de communication politique, justement, pour la gestion de cette crise?
Alors, il y a une, sur la communication, il y a une communication gouvernementale qui a été ce qu'elle est. Nous, on a communiqué essentiellement sur les avis, on a essayé de s'appuyer sur la science et d'avoir une autonomie. Je rappelle qu'on n'est jamais apparu dans les communications auprès du ministre, etc. On a gardé en permanence cette forme de liberté par rapport aux politiques auxquelles je tenais beaucoup. Moi, je dirais que le principal point, si j'ai une critique à faire, c'est que les mesures qui ont été prises en France, qui ont été annoncées par les politiques, et en particulier le président de la République, elles sont assez similaires, assez proches de ce qui s'est fait au Danemark. Mais la première ministre au Danemark, c'était une femme. Alors, c'est, déjà, ça change un peu le mode de communication. Et ensuite, elle, sur la même décision qui a été prise en France, elle l'expliquait. Elle passait 3 minutes de plus en disant, voilà, j'avais
le choix. Elle expliquait pourquoi.
Elle expliquait pourquoi. J'avais le choix entre tel et tel. Les scientifiques me donnaient telle vision.
Ce qui n'a pas été fait en France.
Et en France, on a une communication très top-down, qui est celle de... Bon, et de dire, voilà, on a décidé, j'ai décidé deux. Hein. Et probablement, cet aspect, je pense que les Français, là...
Ce qui a manqué, c'est de l'explication, finalement.
C'est de l'explication de la décision. Et non, la décision était bonne, mais pourquoi cette décision ?
Voilà. Pour expliquer un petit peu à tous les citoyens pourquoi ils avaient pris ces décisions-là. On va parler maintenant de votre rôle pendant la crise du VIH, ce qui est quand même très important. Vous avez été très important, très impliqué dans la lutte contre le sida. Quelles étaient les plus grandes difficultés scientifiques et sociétales à l'époque, pendant cette crise ?
Alors, à l'époque, je rappelle qu'on est là, on revient en arrière.
Oui, on revient en arrière, évidemment.
Par rapport au Covid, on est dans les années 85. 82 à 85, on découvre ce virus. Là aussi, on patauge. Hein, on ne sait pas trop comment il se transmet. Une transmission sexuelle, une transmission par le sang. Il y a eu tous ces enjeux importants hein, de transmission par voie sanguine, avec toute la question qui s'est posée ensuite de est-ce qu'on aurait pu éviter ça. Enfin, avec des enjeux qui étaient déjà aussi terriblement politiques. Et puis, la temporalité que j'ai vécu sur le VIH-SIDA n'est pas du tout la même que ce que j'ai vécu sur le Covid. Covid, finalement, tout s'est joué en 2 ans et demi. On a trouvé des vaccins en moins de 6 mois, les médicaments très vite aussi. Sur le VIH-SIDA, les premiers médicaments arrivent qu'en 1996, c'est-à-dire 14 ans après le démarrage de cette énorme pandémie. Hein. Et donc, on a une période extrêmement lourde, en particulier dans les années 90, où on n'avait pas de traitement. On savait diagnostiquer, on avait les services,
qui étaient pleins de
jeunes, et en particulier de jeunes hommes qui étaient à leur 4e, 5e infection opportuniste, et où on s'est posé là très, très clairement le problème de la fin de vie dans cette
pour on va en parler de la fin de vie.
Et où c'est là, moi, j'ai commencé à être interpellé par les conditions de la fin de vie pour un certain nombre de jeunes patients.
Très bien. Comment la gestion de cette crise sanitaire a-t-elle influencé votre approche lors de la pandémie du Covid-19 ? J'imagine que l'un vous a quand même apporté quelques réponses à l'autre.
Oui. Sur le VIH-SIDA, il y a eu deux aspects. Il y a eu l'aspect on ne connaît pas, donc il faut faire la place à la recherche.
Oui.
Et ça reste
votre fer de lance,
c'est-à-dire qu'on ne sait pas. Donc,
il faut rechercher.
Ça, il faut rechercher.
Bon. Tout à fait.
Et donc, se donner les moyens. Et la France ne se donne pas suffisamment les moyens actuellement de consacrer de financement aux chercheurs. Ce qui n'était pas le cas dans la période VIH-SIDA, où on a bénéficié de
plus de financement.
Ça, c'était le premier point. Le deuxième point, c'était les patients. C'est le moment où les patients, les associations, ACT UP, AIDS, etc., se mettent en place, connaissent beaucoup de choses. Et c'est le moment où, tout d'un coup, le pouvoir médical est remis en cause, puisque pouvoir médical, il n'y a pas, puisqu'on ne sait pas, et où donc on va construire avec le milieu associatif. Et c'est ça qui m'a profondément changé, c'est-à-dire de considérer une fois de plus que la médecine est là pour aider les patients, mais qu'elle n'est pas là pour diriger l'ensemble de la structure, et que la voix des patients est un élément fondamental.
Ben, les défis étaient bien au-delà de la science.
Oui, et ça va bien sûr au-delà de la science. Et c'est là où j'ai commencé à réfléchir sur les enjeux de démocratie en santé et de d'éthique, comment on construit finalement une réflexion autour de la prise en charge.
Il y avait des tabous, de la stigmatisation. Alors justement, comment vous avez fait pour travailler et pour faire avancer les choses avec ce contexte-là particulier ?
Alors d'abord, j'étais plus jeune. La société était découvrait ça.
Mm-hmm. Hein.
Mais avec une notion peut-être était peut-être plus bienveillante que maintenant. Je pèse mes mots parce que c'est important. Hein. Mais je dirais, j'ai bien vu comme l'épisode que je vous racontais sur salle PD sur la porte de mon bureau, mais tout ça a duré très peu de temps. Ça montre que la crainte qu'il y avait. Mais ensuite, quand les patients sont arrivés, qu'on a expliqué à l'ensemble, aux aides-soignants, au brancardier dans l'hôpital qui ne voulait pas, bon, au début, brancarder ce type de patient parce qu'ils avaient peur.
Ah, ils voulaient même
mais,
pas les
mettre. Non, mais quand on a mis, on s'est trouvé avec tout ça sur la table. Ouais. Et j'ai, avec les jeunes médecins de l'époque, on a expliqué, on passait notre temps à l'hôpital, on passait quasiment 18 heures par jour à l'hôpital pour, et avec le milieu associatif qui était extrêmement présent. Et c'est comme ça que s'est construit progressivement, je dirais, une acceptabilité sociale. Et je pense que ça nous a tous énormément formés de construire autour de cette maladie, à la fois d'un point de vue recherche et puis d'un point de vue relation avec les patients.
On va parler maintenant aujourd'hui, parce qu'on va parler de votre présidence du Conseil consultatif national d'éthique, le CCNE. Donc vous êtes le président du CCNE, vous avez traité des sujets complexes et sensibles comme la PMA, la fin de vie ou encore l'éthique des technologies. Quelles ont été les décisions, les recommandations les plus marquantes pour vous aujourd'hui ?
Alors, le Comité national d'éthique, c'est une institution indépendante dans le modèle français. Ouais. On est 45 personnes, il y a un tiers de médecins et de chercheurs, et puis le reste, c'est des juristes, des philosophes, des gens de sciences humaines et sociales. Et il y a une représentation de la société civile, on a 5 personnes qui représentent les associations de patients. Et donc, je dis que c'est un exercice d'intelligence collective qui aborde des sujets qui sont terriblement difficiles, où il n'y a pas forcément de solution. Mais en tout cas, on met sur la table ces sujets et on essaie de construire. Chacun arrive avec sa vision, sa culture, sa religion, sa formation, et puis on écoute l'autre. Et c'est donc une éthique de construction et d'écoute. C'est probablement ce qui manque d'ailleurs, peut-être un peu à nos politiques en ce moment, hein, de comment on arrive à construire ensemble sur un sujet difficile. Alors, on a soit on peut être saisi par le gouvernement.
Oui.
Ce qu'on appelle une saisine, soit on peut s'auto-saisir. Et quand on s'auto-saisit, on est maître du monde, puisqu'on peut aborder les problèmes qu'on souhaite aborder.
Vous choisissez les sujets.
Et on choisit les sujets. Et en particulier, bon, dans les grands sujets que j'ai eu à vivre comme président du CCNE, bah, j'ai eu les deux sujets extrêmes de la vie. C'est-à-dire comment, sur la conception,
PMA.
Et la PMA, et l'ouverture de l'AMP sur les femmes seules et les couples de femmes, qui a précédé la loi de bioéthique et qui a précédé finalement l'ouverture de ce qui a été fait au cours de la loi de bioéthique de 2021. Et le CCNE a comme rôle de préparer la loi de bioéthique. Et puis, de façon plus récente, de l'avis du CCNE sur la fin de vie, qui est sorti en septembre 2022, et qui là souhaitait à la fois reconnaissait qu'il y avait des progrès à faire sur les soins palliatifs, disait que la loi Claeys-Leonetti n'était pas suffisamment connue ni appliquée, et ouvrait une porte en disant qu'il y avait un certain nombre de situations, probablement rares, mais qui pouvaient exister, ou sur lesquelles, au nom de la dignité, donc de l'autonomie dans une certaine façon, eh bien, un certain nombre de patients pouvaient demander une aide à mourir.
On en est où, justement, sur la fin de vie actuellement, avec le gouvernement actuel ? Est-ce que ça bouge ? Est-ce que ça avance ? Ou est-ce que c'est complètement figé ?
À partir de l'avis du CCNE, le gouvernement et le président de la République, Emmanuel Macron, a décidé d'ouvrir une grande consultation citoyenne. Et je pense qu'à côté du sujet lui-même, ce qui s'est passé sur fin de vie, sauf peut-être la fin tout à fait, est assez exemplaire. Parce qu'on a pris le temps de réfléchir sur ces sujets-là.
Ça vous a pris combien de temps ?
Ça a pris 18 mois quand même.
Hein. Ouais,
18
c'est pas
à 24 mois, avec une convention citoyenne,
tout à fait.
Avec énormément de réunions qui ont été organisées sur tous les territoires. Le CCNE, avec les espaces éthiques régionaux, a organisé plus de 600 réunions, donc plus de 60 000 personnes qui ont été à ces réunions. Donc, les différentes académies de médecine, le Conseil de l'Ordre, a réfléchi, a pris des positions. Et donc, la loi, ensuite, qui a été lancée par le gouvernement, est une sorte de ligne de crête, c'est une loi d'ouverture, hein, et qui s'ouvre prudemment, mais sur l'aide active à mourir. Bon, cette loi a été présentée au Parlement en mai 2024. Elle était en cours de discussion, et tout s'est arrêté avec la dissolution. Donc, on en est exactement là. C'est-à-dire que maintenant, on repart avec une loi qui devait être présentée en février 2025. Et à ce jour, je ne sais pas quel sera le gouvernement.
Est-ce qu'elle est à l'agenda ou pas ?
En février 2025, elle sera mise à l'agenda. Donc c'est vrai que ce long chemin, cette discussion, cette construction de la démocratie.
C'est difficile ce long chemin.
C'est difficile pour moi aussi.
C'est justement ce que je veux dire.
J'ai passé pratiquement 2 ans de ma vie à construire, à voir les différents acteurs.
Comment vous arrivez à rester justement à y croire encore?
Parce que je m'aperçois en voyant un peu ce qu'a été ma vie professionnelle, que plus il y a de difficultés, plus ça m'excite dans une certaine façon. Et donc, j'ai envie d'essayer de les résoudre pour mes concitoyens. Et donc, on en est là. Et j'espère, entre guillemets, que cette loi sera remise sur la table avec le nouveau gouvernement. Pourquoi ? Parce que il y a une demande de la part des Français autour de ce changement.
De la fin de vie.
La fin de vie n'est plus la même qu'il y a 50 ans. La fin de vie se passe beaucoup dans des structures médicalisées. Il faut qu'on améliore ce qui se passe dans les EHPAD. On est une grande nation démocratique, quoi qu'on dise et quoi que j'entende aujourd'hui. Et donc, sur quoi on est jugé ? On est jugé sur notre capacité à s'occuper des personnes les plus fragiles. Hein. Une vraie nation, et j'insiste bien là-dessus, une vraie nation démocratique, c'est elle qui passe du temps et qui consacre des financements à ces populations les plus fragiles.
Tout à fait. Selon vous, l'importance de l'éthique dans un monde où les avancées technologiques se font à un rythme de plus en plus effréné, ça va de plus en plus vite. Le rôle de l'éthique et l'importance de l'éthique là-dedans, elle est où ?
Elle est d'essayer de faire réfléchir les scientifiques et peut-être aussi les citoyens, ceux qui sont intéressés, mais en particulier les jeunes, mais c'est là où c'est évidemment le plus difficile, sur quel monde voulons-nous pour demain ?
Ouais.
Je vais vous donner un bon exemple, par exemple, sur la loi de bioéthique de 2021, sur les cellules souches. Mmh. Alors, les cellules souches sont des cellules qui sont capables, ensuite, quand on leur donne des signaux, et quand on lui dit, ma cocotte, il faut que tu te différencies en un cartilage de l'épaule ou du genou, si je te donne tel ou tel signal, c'est la future médecine de demain, la médecine de remplacement, où on arrivera à remplacer un certain nombre d'organes par la construction de cellules souches. Bon. La même cellule souche, elle est pluripotente, c'est-à-dire qu'elle peut se transformer en beaucoup de choses.
Ouais.
Et elle peut se transformer, par exemple, en spermatozoïde ou en ovocyte. Et on peut imaginer que si à la même cocotte que j'évoquais, on lui donne un autre signal, elle va se transformer en spermatozoïde ou en ovocyte. Et là, on peut faire un embryon complètement de novo, en dehors de tout acte sexuel, complètement en éprouvette, et on commence à toucher une ligne rouge de construction. Et c'est là où l'éthique est là pour poser la question jusqu'où voulons-nous aller. Mais si je parle des cellules souches, c'est parce qu'il y a eu un long débat sur l'origine de ces cellules souches. Et ces cellules souches, elles peuvent être originaires de deux points, soit l'embryon, parce qu'il y a des cellules souches embryonnaires qui existent, soit de la peau.
Et
finalement, il y a eu un très long débat sur on les prend à partir de l'embryon, vous vous rendez compte ce qu'on fait. La question n'est pas là. La question, puisqu'on arrive à les trouver à partir de cellules cutanées, la question est de savoir ce qu'on en fait. Si on va vers une transformation vers l'épaule et un remplacement d'organes, on est dans la médecine de demain. Si on est dans la construction d'un nouveau embryon à partir de cellules souches asexuées, là, on franchit une ligne rouge.
Quels sont les défis ? On va parler santé publique un petit peu, parce que là, on va arriver au terme de l'émission. Et c'est assez triste d'ailleurs. Quels sont les grands défis auxquels la santé publique devra faire face dans les années à venir pour vous, Jean-François Delfrécy ?
Il y en a un qui est évident.
Voilà, allez-y.
Personne ne veut voir, c'est le vieillissement de la population.
Ah, bah ça c'est clair. Bon. Je suis bien d'accord.
Donc je suis vraiment là-dessus, je suis très clair là-dessus.
Ouais.
Personne ne veut voir ça. Moi le premier, évidemment. mais il n'y a pas que moi. Les scientifiques, c'est un sujet qui les intéresse, mais bof bof. Les citoyens, les familles, c'est compliqué. Notre vie a changé. On a pris le modèle EHPAD, mais on voit bien les limites de ce modèle EHPAD. On a bien vu les tensions qui se passaient avec le modèle EHPAD unique au moment du Covid, par exemple. Les chiffres sont là.
Ouais.
On a d'une part une baisse de la natalité en France.
Tout à fait.
Qui est moins marqué que dans d'autres pays, mais qui est quand même marqué et qui va s'accentuer. Deuxièmement, on a une médecine qui permet de prolonger la vie des gens dans des conditions qui sont plus ou moins optimales, mais qui existent. Et donc, il y a une progression, entre guillemets, de la durée de vie de chacun des citoyens. Ça implique d'ailleurs des questions autour de la retraite, est-ce qu'elle est au même âge ou pas, hein, c'est des sujets aussi de ce type. Et puis troisièmement, on a une population qui vit japonaise. Comment on va répondre à ça? Et comment on va à la fois pouvoir porter une population jeune et répondre à cette question du vieillissement des populations? Et ça ne sera pas l'État qui va répondre. Il ne pourra pas. L'État est à bout de souple en termes de financement et de plans sociétaux. Donc il va falloir que de nouveau, le milieu associatif, les familles, s'impliquent comme elles l'étaient à une période. Et ça, c'est des messages extrêmement difficiles, y compris pour le politique.
J'ai une dernière question. Si vous pouviez revivre un moment marquant de votre carrière, vous choisiriez lequel, Jean-François Delfrécy?
Ah, je choisirais. Alors, c'était en 1995. J'étais responsable d'un grand essai thérapeutique qu'on faisait avec les Américains, où on avait un médicament qui s'appelait, c'est les premiers médicaments du VIH, qui s'appelait l'AZT. Et on avait posé la question simple. Est-ce qu'en donnant de l'AZT pendant la grossesse chez les femmes séropositives, on peut réduire la transmission à l'enfant? Et on a eu, je me souviens, c'était en février, et j'étais donc, c'est un essai qui était mené en France et aux États-Unis, j'étais co-PI, et le comité indépendant qui voyait les résultats décide d'arrêter l'essai parce que le bras AZT réduisait de 60% la transmission.
Qu'est-ce que vous avez ressenti?
J'ai ressenti d'abord, on était dans la période la plus noire du sida, donc c'était un des premiers grands essais qui était extrêmement positif. Et puis, on a sauvé des dizaines de millions d'enfants. À partir de ce résultat. Et donc, ça, c'est le résultat dont je suis probablement le plus fier.
Vous étiez où? Vous vous en rappelez?
Ah oui, très bien.
Vous étiez où?
J'étais dans le Cantal et sur le...
Jean-François Delfrécy, merci pour ce partage inspirant et éclairant. On rappelle qu'Un médecin au fond, aux éditions du Seuil, vous pouvez l'acheter dans toutes les bonnes librairies, c'est exact. Vous nous avez montré que derrière chaque grande décision, il y a des convictions profondes et un sens aigu des responsabilités. Merci beaucoup d'avoir été avec nous.
Merci.
À bientôt dans Le Jour où.